Les droits de la femme revendiqués, chapitre 1er. Examen des droits du genre humain et des devoirs qu'ils renferment. Dans l'état présent de la société, pour rechercher les vérités les plus simples, on est obligé de remonter au premier principe et de disputer chaque pouce de terrain aux préjugés qu'on trouve établis. On me permettra, pour éclaircir ma route, de faire quelques questions, toutes naturelles, auxquelles j'espère des réponses probablement aussi lumineuses que les axiomes qui servent de base à l'art de raisonner. Quoiqu'elles soient formellement contredites, soit par le langage, soit par la conduite des âmes, lorsque la variété des motifs qui les déterminent y jette du louche. En quoi consiste la prééminence de l'homme sur les animaux? La réponse est aussi claire que 2 et 2 font 4, dans la raison. Quelle qualité acquise élève un être au-dessus d'un autre? La vertu, répondons-nous unanimement. Pour quelle fin l'auteur de la nature a-t-il mis les passions dans le cœur? Afin que l'homme, en luttant contre elles, puisse atteindre un degré de connaissance refusé aux brutes, nous dit l'expérience. Conséquemment, la perfection de notre nature et l'aptitude à être heureux doit s'estimer par le degré de raison, de vertu et de connaissance qui distingue l'individu et dirige les lois par lesquelles la société est unie. Et que la connaissance et la vertu découlent naturellement de cet exercice de la raison, c'est ce qui est également incontestable si l'on regarde l'espèce humaine prise collectivement. Les droits et les devoirs de l'homme ainsi simplifiés, il semblerait absurde d'essayer d'éclaircir des vérités d'une telle évidence. Cependant, des préjugés si profondément enracinés ont étouffé la raison, tant de qualités fausses ont pris le nom de vertu qu'il est indispensable de suivre et de démêler le cours de la raison, dérangé par différentes circonstances étrangères et perdu, pour ainsi dire, dans le labyrinthe de l'erreur, en comparant la règle rigoureuse avec les écarts fortuits. Les hommes, en général, semblent aimer mieux employer leur raison à justifier des préjugés qu'ils ont reçus, sans trop savoir comment, qu'à les déraciner. Elle doit être forte, cette tête, qui a le courage de se faire à elle-même ses principes. Car presque tous les hommes ont une espèce de lâcheté paresseuse qui les effraye à la vue de ce travail, ou ne leur permet de le remplir qu'à moitié. Cependant, ces conséquences imparfaites sont fréquemment assez plausibles parce qu'on les déduit d'une expérience partielle et de vue juste, quoique étroite. En remontant au premier principe, on est sûr que le vice, avec toute sa difformité native, essaiera de se dérober à vos recherches exactes. Une tourbe de ces sots raisonneurs s'en vont toujours, criant que ces arguments prouvent trop. Ils vous donnent à la place leur mesure, détestable au fond, sous prétexte de facilité. C'est ainsi qu'on oppose cette facilité malheureuse au simple principe, jusqu'à ce qu'enfin la vérité se trouve perdue dans un nuage de mots, la vertu dans un amas de formes, et que la science, privée de réalité, soit réduite à son nom, qu'on fait sonner bien haut, quoique ce ne soit plus elle, et qu'on lui ait substitué des préjugés spécieux. Une société dont la constitution se fonde sur la nature de l'homme est, certes, la plus sagement ordonnée. Cette vérité frappe tout être pensant d'une telle évidence qu'il regarde comme présomptueux celui qui veut en administrer des preuves. Il faut pourtant en donner, ou les préjugés feront valoir contre la raison la prescription d'une possession immémoriale. Cependant, citer la prescription pour justifier les refus faits aux hommes ou aux femmes de l'exercice de leurs droits naturels est un des sophismes absurdes qui insultent journellement au sens commun. La civilisation du gros des peuples de l'Europe offre le coup d'œil affligeant d'une injuste partialité. Il y a plus, c'est qu'on pourrait mettre en question si les hommes y ont acquis quelques vertus, formant un échange équivalent à l'état malheureux où les ont réduits leurs vices, dont on s'est efforcé de plâtrer une ignorance imprévoyante, et la liberté qu'on leur a fait troquer contre un brillant esclavage. Le désir d'éblouir par les richesses, qui malheureusement assure le mieux la prééminence de l'homme, le plaisir de commander à des flatteurs et beaucoup d'autres calculs aussi bas, faits par l'avide égoïsme, ont contribué à écraser la masse du genre humain et à faire de la liberté un instrument commode pour le faux patriotisme. Car tandis que les rangs et les titres acquièrent une fausse grandeur devant laquelle le génie doit s'humilier et cacher sa tête, convenons qu'à quelques exceptions près, et c'est un grand malheur pour une nation, les hommes de mérite, sans richesse et sans titre, ont bien de la peine à se faire jour. Hélas, que de calamités inouïes des millions d'hommes n'ont-ils pas souffert pour payer le chapeau rouge à un obscur et intrigant aventurier qui voulait être rangé parmi les princes ou même aspirait à leur commander en couvrant son front audacieux de la triple couronne. Telle a été, en effet, la misère d'un grand nombre d'individus causée par les honneurs héréditaires, les richesses et le despotisme que les hommes d'une sensibilité profonde, n'osant pas accuser la Providence, mais ne pouvant se résoudre à la justifier, se sont presque permis contre elle de demi-blasphèmes. L'homme s'est regardé comme indépendant du pouvoir créateur auquel il doit son existence, ou comme une comète excentrique sortant de son orbite pour dérober le feu céleste de la raison. Et la vengeance du ciel, cachée dans cette flamme subtile, n'a que trop puni sa témérité en introduisant le mal dans l'univers. Profondément frappé de ce spectacle de malheur et de désordre qui avait envahi la société, et fatigué d'une lutte pénible contre des fous entêtés, Rousseau devint passionné par la solitude. Et ses principes en ayant fait en même temps un optimiste, il consacra sa prodigieuse éloquence à prouver que l'homme était naturellement animal solitaire. Égaré par son respect pour la bonté de Dieu, car quel être sensible et raisonnable peut en douter, de Dieu qui, certainement, ne nous a donné la vie que pour nous communiquer le bonheur, il regarde le mal comme réel, mais il y voit l'ouvrage de l'homme en se dissimulant que c'est exalter un attribut aux dépens d'un autre, aussi nécessaire à la perfection divine. Bâti sur une fausse hypothèse, ses arguments en faveur de l'état de nature sont plausibles, mais sans solidité. Je dis sans solidité, car prétendre que l'état de nature est préférable à la civilisation dans toute sa perfection possible, c'est en d'autres mots démentir la suprême sagesse. Et cette exclamation paradoxale que Dieu a fait tout bien et que le mal a été introduit par ses créatures, qu'il a pourtant faite en sachant ce qu'il faisait, est aussi peu philosophique que religieuse. Quand cet être sage qui nous créa et nous mit ici-bas voulut que les passions développassent notre raison, sans doute il se détermina pour cette belle idée parce qu'il vit que le mal présent produirait un bien futur. Les faibles créatures qu'il a tirées du néant pourraient-elles se soustraire à sa providence et se flatter d'apprendre sans sa permission à connaître le bien en pratiquant hardiment le mal? Non. Comment donc cet énergique défenseur de l'immortalité a-t-il pu raisonner d'une manière si peu conséquente? Que le genre humain fût resté pour jamais dans l'état brut de nature, qu'il a été impossible même à sa plume magique de nous peindre comme un état dans lequel une seule vertu prenne racine, il aurait été clair, quoique peut-être l'homme purement sensitif et errant au hasard ne s'en fût point aperçu, que la créature humaine était née pour parcourir le cercle de la vie et de la mort, et que Dieu l'avait placée dans le magnifique jardin de la création pour quelque fin qu'il n'était pas aisé d'accorder avec ses attributs. Mais si pour couronner son ouvrage, il fallait qu'il créât des êtres raisonnables, doués de la faculté d'avancer en excellence par l'exercice des facultés mises en eux pour arriver à ce développement, si la bonté divine jugea elle-même à propos d'appeler du néant à l'existence une créature au-dessus de la brute qui put penser et se perfectionner d'elle-même, pourquoi nommer en termes directs une malédiction cet inestimable bienfait? Car ce fut réellement un bienfait si l'homme fut créé de manière à pouvoir s'élever au-dessus de l'état dans lequel des sensations lui procuraient un bonheur animal. Et cependant, on pourrait en effet l'appeler une malédiction si toute notre existence était bornée à ce monde. Car à quoi bon le dispensateur de la vie nous aurait-il donné des passions et la faculté de réfléchir? Serait-ce uniquement pour empoisonner d'amertume la coupe de la vie, ou nous tromper par de fausses notions d'une dignité que nous n'aurions pas réellement? Pourquoi nous conduirait-il, par le sentiment de l'amour de nous-mêmes, au sublime transport qu'excite la découverte de sa sagesse et de sa bonté, si ces sentiments n'étaient pas éveillés en nous pour améliorer notre nature dont ils font partie, et nous rendre capables de jouir d'une portion plus divine de félicité? Fermement persuadé qu'il n'existe dans ce monde aucun mal auquel Dieu n'ait voulu donner sa place, comme à une ombre dans un tableau, j'établis ma foi à cet égard sur la perfection de Dieu. Rousseau s'efforce de prouver que tout était bien originairement. Une foule d'auteurs que tout est bien aujourd'hui, et moi que tout sera bien un jour. Mais fidèle à sa thèse favorite, l'état de nature, Rousseau fait l'éloge de la barbarie, et dans son éloquente apostrophe à l'ombre de Fabricius, il oublie qu'en faisant la conquête de l'univers, les Romains n'ont jamais songé à établir leur propre liberté sur une base solide, pas plus qu'à étendre l'empire de la vertu. Jaloux de soutenir son système, il taxe d'effet du vice tous les efforts du génie, et faisant l'apothéose des vertus sauvages, il exalte ces demi-dieux qui furent à peine des hommes, les féroces Spartiates qui, ne croyant ni à la justice ni à la reconnaissance, sacrifièrent de sang-froid des esclaves, dont tout le crime était de s'être montré homme et d'avoir tenté de se soustraire aux joues de fer de leurs tyrans. Dégoûté des mœurs et des vertus factices, le citoyen de Genève, au lieu d'examiner son sujet d'une manière convenable, jette le froment avec la paille, sans se donner le temps de s'assurer si les mots à l'aspect desquels son cœur bondissait avec tant d'indignation étaient la suite naturelle de l'état de civilisation ou les restes de la barbarie. Il vit le vice fouler aux pieds la vertu et une fausse bonté prendre la place de la véritable. Il vit les talents forcés par les maîtres du monde de se prêter à de sinistres projets et ne pensa jamais à remonter jusqu'au despotisme la vraie source de ces maux affreux pour les lui reprocher. Aux distinctions héréditaires qui voudraient bien se ranger avec cette supériorité d'intelligence dont l'effet naturel et juste est d'élever un homme au-dessus de ses semblables. Il ne s'aperçut pas que la puissance royale introduit en peu de générations une sorte de stupidité dans les familles nobles et se sert des croix, des cordons, comme d'amorces pour prendre dans ses filets des milliers d'êtres vicieux et lâches. Rien ne saurait présenter le despotisme royal sous un point de vue plus vrai et par conséquent plus hideux que la peinture des différents crimes atroces par lesquels des méchants se sont frayés un chemin au trône. De viles intrigues, des forfaits outrageant la nature et tous les vices qui dégradent notre espèce ont servi de degré pour monter à cette place éminente. Et des millions d'hommes, la face prosternée contre terre, ont lâchement permis aux débiles enfants de ces monstres déprédateurs de siéger en paix sur leur trône, baignés du sang des malheureux. Une vapeur mortelle ne pèse-t-elle pas sur la société quand le principal chef qui la dirige ne reçoit d'autre éducation que celle par laquelle on le déprave en lui apprenant à inventer des crimes ou on l'abrutit dans la stupide routine d'un cérémonial puéril? Les hommes ne deviendront-ils donc jamais sages? Ne cesseront-ils donc jamais d'attendre du froment, d'un champ infecté de folle avoine et des figues des épines? Il est impossible même pour l'homme, en faveur de qui se réunissent les circonstances les plus favorables, d'acquérir assez de lumière et de force d'âme pour remplir dignement les devoirs d'un roi revêtu d'une autorité sans bornes. Combien donc ne les violera-t-il pas, ses devoirs, celui que l'élévation de son rang ne sert qu'à mettre hors de la portée de la vertu ou de la sagesse? Celui qui, dans toutes les affections humaines, sont corrompues par l'adulation et la faculté de réfléchir, troublée par l'ivresse des voluptés. Certes, c'est une grande folie aux hommes de faire dépendre le bonheur de tant de millions du caprice d'un être faible que ses vices rabaissent presque toujours au-dessous du dernier de ses sujets. Mais il ne faut pas renverser un pouvoir pour en élever un autre sur ses ruines. car la puissance corrompt infailliblement l'homme, créature faible par essence, et l'abus qu'il ne manque pas d'en faire démontre que plus l'égalité est établie dans la société, plus il règne de vertu et par conséquent de bonheur. Par quelle fatalité ces principes et d'autres semblables que dicte la raison font-ils crier « L'Église ou l'État sont en danger » si l'on n'a pas une foi implicite pour la sagesse de l'Antiquité? Aussi traite-t-on d'athées et d'ennemis du genre humain ceux qui, profondément touchés de ces malheurs, osent attaquer une autorité purement humaine. Ce sont là des calomnies bien atroces. Eh bien, elles ont été versées à grands flots sur le docteur Price, un des meilleurs des hommes, dont les cendres prêchent encore la paix, et au souvenir duquel on doit s'arrêter respectueusement en silence toutes les fois qu'on traite des sujets autrefois si chers à son cœur. Après m'être rendu criminel de lèse-majesté royale, probablement je n'étonnerai guère en ajoutant que toute profession qui tire son existence d'une grande subordination, qui s'incline humblement devant des titres, est démontrée pour moi tout à fait contraire à la saine morale. Une armée sur le pied de guerre, par exemple, est incompatible avec la liberté, du moins pour les individus qui la composent, parce que la subordination et la rigueur sont les nerfs de la discipline militaire et qu'il faut du despotisme pour mettre de l'activité dans les entreprises dirigées par la volonté d'un seul. En effet, il n'y a qu'un petit nombre d'officiers qui puissent être inspirés d'un esprit formé par des notions romanesques sur l'honneur, d'une sorte de morale fondée sur le ton de leur siècle, tandis que la grande masse doit être mue par le commandement, comme les vagues de la mer par les vents. Car le tourbillon de l'autorité pousse en avant avec fureur la troupe des subalternes, qui ne savent et ne s'inquiètent guère où on les lance. En outre, rien ne saurait être plus pernicieux pour le moral des habitants de nos villes de province que le séjour d'une foule de jeunes gens superficiels et désœuvrés, dont la galanterie est l'unique occupation, et qui rendent le vice plus dangereux en en cachant la difformité sous des dehors aimables. Un air de mode, qui n'est après tout qu'un symbole d'esclavage et prouve que l'âme n'a pas un caractère à elle, séduit la simplicité honnête des gens de la province et les engage à imiter des vices dont ils n'ont même pas le mérite de saisir les grâces et l'élégance. Tout corps est une chaîne de despotes qui, se soumettant et tyrannisant tour à tour, sans faire usage de leur raison, deviennent des masses accablantes de vices et de folies dont le poids écrase la société. Un homme de rang ou de fortune, sûr de s'élever par la protection ou l'argent, n'a rien à faire que de se livrer à des goûts extravagants, tandis que l'honnête, mais pauvre citoyen, qui doit faire son chemin par son mérite, devient un parasite servile ou un lâche imitateur. Il en est de même pour les officiers de marine. Seulement leurs vices empruntent une tournure différente et plus de rudesse de l'élément où ils vivent. Ils sont plus positivement désœuvrés quand ils ne font plus leur quart. Mais citera-t-on l'agitation insignifiante des militaires, on pourrait l'appeler une nonchalance active. Plus restreints à la société des hommes, les premiers acquièrent un goût décidé pour la plaisanterie mordante et les tours d'une malignité cruelle. Les autres, fréquentant des femmes que l'on dit bien élevées, prennent un jargon sentimental. Mais la grosse joie ou le sourire poli n'indique pas plus dans les uns que dans les autres que l'âme y entre pour quelque chose. Me permettra-t-on d'étendre la comparaison jusqu'à un état où certainement l'intelligence doit avoir plus de part? Car le clergé a plus d'occasion de cultiver son esprit, quoique la subordination rampante en arrête également l'essor. La soumission aveugle, imposée dans les collèges aux dogmes de foi, sert, pour ainsi dire, de noviciat à nos futurs vicaires, obligés de respecter les opinions de leur curé ou de leur patron s'ils veulent s'avancer. Peut-être n'y a-t-il pas de contraste plus frappant que celui qui règne entre l'air humble et dépendant d'un pauvre vicaire et la morgue hautaine d'un évêque. Le respect et le mépris qu'ils inspirent tous les deux rendent également inutile l'exercice de leurs fonctions. Une remarque importante, c'est que le caractère de chaque individu se modèle jusqu'à un certain point sur sa profession. Un homme de sens peut seul avoir un maintien qui ne disparaît pas lors même que vous examinez la personne. tandis que l'homme faible et ordinaire n'a, pour ainsi dire, d'autre caractère que celui qui appartient à son corps. Au moins, toutes ces opinions ont tellement pris la teinte de celle que consacre l'autorité qu'enfin essayeriez-vous de distinguer la nuance des siennes. La société, profitant des lumières qu'elle acquiert de jour en jour, aura donc soin de ne plus permettre de corporations d'hommes dont leur état même tend à ne faire que des êtres vicieux ou insensés. Dans l'enfance de la société, quand les hommes sortaient à peine de la barbarie, les chefs et les prêtres, touchant les deux ressorts les plus puissants de leurs âmes encore sauvages, la crainte et l'espérance, durent jouir d'un pouvoir illimité. L'aristocratie est peut-être naturellement la première forme de gouvernement. Mais des intérêts opposés perdant bientôt l'équilibre, la monarchie et le sacerdoce sortirent du milieu de ces luttes ambitieuses et les possessions féodales en affermirent les bases. Telle paraît avoir été l'origine de la puissance royale et ecclésiastique et l'aurore de la civilisation. On sent que le trône et l'autel, jaloux l'un de l'autre, ne purent longtemps demeurer en paix. D'ailleurs, ils cherchent par goût à envahir. Il en résulta donc des guerres étrangères et des insurrections intestines. Dans ce tumulte, les peuples acquirent quelques pouvoirs qui força ceux qui les gouvernaient de masquer l'oppression par une apparence de justice. C'est ainsi que les guerres, l'agriculture, le commerce et les lettres agrandissant l'esprit, les despotes sont contraints de s'assurer par une corruption secrète du pouvoir qu'ils avaient d'abord usurpé à force ouverte. Cette gangrène qui mine sourdement le corps politique n'a pas de plus sûr, de plus prompt moyen de se répandre que le luxe et la superstition, fomentés par l'envie de dominer les autres. L'indolente poupée d'une cour devient d'abord un monstre fastueux ou un épicurien blasé, puis il se fait de la contagion même que répandent ses vices, contraires à la nature, un instrument de tyrannie. C'est cette funeste pourpre qui rend les progrès de la civilisation un malheur et enchaîne l'intelligence au point de faire douter aux hommes sensibles si le développement de nos facultés morales ne produit pas une plus grande somme de mal que de bien. Mais la nature du poison indique son antidote, et si Rousseau eût fait un pas de plus dans ses recherches, ou que son œil eût pu percer l'atmosphère nébuleuse de la cour qu'il dédaignait, son âme active se serait élancée jusqu'aux régions du vrai, et là il aurait vu la perfection de l'homme dans l'établissement de la véritable civilisation, au lieu de rétrograder comme il l'a fait dans les ténèbres de la barbarie qu'il nous vante. Chapitre 2. L'opinion reçue d'un caractère sexuel discuté. On a produit une foule de raisonnements ingénieux pour prouver, en rendant compte de la tyrannie de l'homme et en cherchant à l'excuser, que les deux sexes, dans leurs efforts pour acquérir la vertu, devaient tendre à se former à cet égard un caractère très différent. Disons-le nettement, on ne reconnaît point aux femmes une force d'âme suffisante pour arriver à ce qui mériterait réellement le nom de vertu. Cependant, il semblerait qu'en leur donnant une âme aussi parfaite qu'à l'homme, la Providence n'a voulu établir qu'un seul chemin pour conduire l'espèce humaine soit à la vertu, soit au bonheur qui en résulte. Si donc les femmes ne sont point un essaim de mouches brillantes, de papillons éphémères, pourquoi les retenir dans l'ignorance sous le nom spécieux d'innocence? Les hommes se plaignent, et avec raison, des folies et des caprices de notre sexe, mais ils se gardent bien d'employer la verge de la satire contre nos passions violentes et nos vices dégradants. « Vous voyez, répondrai-je, l'effet naturel de notre ignorance. L'âme, qui ne sait s'appuyer que sur des préjugés, sera dans une instabilité perpétuelle. Et le courant s'élancera, avec une furie destructive, tant qu'il ne trouvera point de digue pour rompre sa force. » Les femmes apprennent depuis leur enfance, soit par les leçons qu'on leur donne, soit par l'exemple de leur mère, qu'une légère connaissance de la faiblesse humaine, la douceur de caractère, l'obéissance extérieure et une attention scrupuleuse à une sorte de propreté puérile leur obtiendra la protection de l'homme. Pour peu qu'elles soient jolies, elles n'ont besoin de rien autre chose, du moins pendant 20 ans de leur vie. C'est ainsi que Milton décrit la fragile Ève, notre première mère. J'avouerai que quand il nous dit que les femmes sont formées pour la douceur et les grâces délicates et attrayantes, je ne puis saisir le sens de ces expressions, à moins de supposer que, comme les sectateurs de l'Alcoran, il veut nous refuser une âme, et insinuer que nous sommes des êtres créés uniquement pour flatter l'essence de l'âme, par les grâces délicates et attrayantes, et par une obéissance aveugle, toutes les fois qu'il redescend sur la terre, fatigué de s'être élevé sur les ailes de la contemplation. Qu'il nous insulte cruellement, ceux dont la voix ne nous avertit que de nous rendre des animaux domestiques agréables à notre maître. Par exemple, qu'est-ce que cette douceur victorieuse si vivement et si fréquemment recommandée qui gouverne tout en obéissant? Quelles expressions puériles! Et combien est nul et insignifiant cet être! En supposant qu'il puisse s'en trouver un immortel qui veuille se plier à tant d'abjections et à régner par ses honteux moyens, certainement, dit Bacon, l'homme est parent de la brute par son corps. Et s'il n'est pas parent de Dieu par son âme, on ne peut voir en lui qu'une créature bien basse et bien ignoble. En vérité, les hommes me paraissent agir bien peu philosophiquement quand ils veulent s'assurer de la bonne conduite des femmes, en essayant de les retenir toujours dans un état d'enfance. Rousseau était plus conséquent, lui, lorsqu'il voulait arrêter le progrès de la raison dans les deux sexes. Car si les hommes mangent du fruit de l'arbre de la science, à coup sûr les femmes voudront en goûter. Mais elles n'arriveront qu'à la connaissance du mal, vu la culture imparfaite que reçoit aujourd'hui leur tête. Les enfants, je l'avoue, sont innocents. Mais quand on applique cette épithète à des hommes faits, ce n'est plus qu'une manière polie de leur reprocher leur faiblesse. Car si l'on convient que la Providence a destiné les femmes à l'acquisition des vertus humaines et à se procurer par l'exercice de leur intelligence cette stabilité de caractère qui forme la base la plus solide sur laquelle puissent être appuyées nos espérances à venir, on doit leur permettre aussi de s'adresser directement à la source de la lumière et ne pas les réduire à marcher dans le demi-jour que fournissent les astres qui l'accompagnent. Milton, j'en conviens, était d'une opinion très différente, puisqu'il ne plie le genou que devant les droits incontestables de la beauté, quoiqu'il serait difficile de rendre conséquents deux passages de lui que je vais mettre en opposition. Mais les grands hommes sont trop souvent conduits par leur sens à de pareilles inconséquences. Ève, cornée la beauté dans toute sa perfection, répondit à son époux, « Source de mon existence, dont tu disposes, j'obéis sans réplique à ce que tu m'as commandé. Dieu l'ordonne ainsi. Dieu est ta loi, tu es la mienne. N'en point connaître d'autre est la science la plus précieuse de la femme et sa véritable gloire. » Telles sont précisément les raisons que j'ai employées vis-à-vis des enfants. J'avais pourtant soin d'y ajouter, votre intelligence commence à se fortifier, vous ferez bien de prendre mes avis jusqu'à un certain degré de maturité. Alors votre devoir sera de penser par vous-même et de ne consulter que Dieu et votre conscience. Cependant, Milton paraît d'accord avec moi dans les vers suivants, où il fait adresser par Adam ce raisonnement à son auteur. « Ne m'as-tu pas fait ici ton lieutenant? N'as-tu pas placé bien au-dessous de moi ces êtres inférieurs? Quelle société, quelle harmonie, quel vrai plaisir peut exister entre des êtres inégaux? Et pourtant tous ces biens doivent être réciproques. Il faut qu'ils soient donnés et reçus dans leur juste proportion. Mais dans la disparité, deux êtres, l'un supérieur et actif, l'autre faible et bien au-dessous du premier, ne sauront se convenir. Bientôt, ils deviendront également à charge l'un à l'autre. Je parle de cette société telle que je la sens, propre à faire partager tous les plaisirs de la raison. En traitant donc des mœurs des femmes, laissons de côté le sexe et suivons nos recherches sur la manière de les faire coopérer, si l'expression n'est point trop hardie, avec l'être suprême. J'entends par l'éducation individuelle, mot qui n'est pas assez précisément déterminé, le soin donné à un enfant, dont l'effet sera d'aiguiser lentement ses sens, de former son tempérament, de régler ses passions dès qu'elles commencent à fermenter, et de mettre en activité son intelligence avant que le corps arrive à sa maturité, de manière que, devenu personne faite, il n'ait plus qu'à suivre et non à commencer le travail important de raisonner. J'ajouterai, pour prévenir toute méprise, que je ne crois pas que l'éducation particulière puisse produire toutes les merveilles qui lui sont attribuées par des écrivains trop confiants. Il faut élever les hommes et les femmes en grande partie dans les opinions et les mœurs de la société dans laquelle ils vivent. Dans tous les âges, il a existé un courant d'opinion populaire qui n'a jamais manqué de tout entraîner devant lui et de donner à toutes les années d'un siècle un air de famille. Il me suffit néanmoins, pour prouver ma thèse actuelle, que, quelle que soit l'influence des circonstances sur les talents, tout individu puisse devenir vertueux par l'exercice de sa propre raison. Car n'y eut-il qu'un être qui eût été créé avec des inclinations vicieuses et fût positivement méchant, l'argument contre la Providence aurait toute sa force. Qu'est-ce qui pourrait alors nous sauver de l'athéisme? Ou si nous adorons un Dieu, pouvons-nous faire de ce Dieu le principe du mal? En conséquence, l'éducation la plus parfaite, à mon avis, consiste dans l'exercice de l'intelligence le mieux calculé pour fortifier le corps et former le cœur. Ou, en d'autres mots, pour mettre l'individu à même d'atteindre à des habitudes vertueuses qui le rendent indépendant. Dans le fait, c'est une dérision d'appeler vertueux un être dont les vertus ne résultent pas de l'exercice de sa propre raison. Telle était l'opinion de Rousseau relativement aux hommes. Je l'étends aux femmes, et j'assure avec confiance qu'elles ont été tirées hors de leur sphère par un faux raffinement et non par la généreuse envie d'acquérir des qualités mâles. De plus, l'humble hommage qu'elles continuent de recevoir est si enivrant que jusqu'à ce que les manières actuelles changent, il sera impossible de les convaincre que l'influence illégitime qu'elles obtiennent en s'avélissant est pour elles un vrai malheur et qu'il leur faut retourner à la nature et à l'égalité si elles veulent s'assurer ce bien-être tranquille que ne peuvent procurer que des affections sans mélange. Mais cet heureux jour, nous l'attendons. Nous l'attendrons peut-être jusqu'à ce que les rois et les nobles, éclairés par la raison et préférant la dignité réelle de l'homme à leur état puéril, jettent d'eux-mêmes leurs brillants pompons héréditaires. Et si les femmes ne veulent pas résigner le pouvoir arbitraire que leur donne la beauté, elles prouveront qu'elles ont moins d'âme que l'homme. On m'accusera d'arrogance, je le sais. Eh bien, je vais plus loin. Je déclare ce que je crois fermement. C'est que tous les auteurs qui ont écrit sur l'éducation et les mœurs des femmes, à partir depuis Rousseau jusqu'au docteur Grégory, ont contribué à en faire des caractères plus faibles, plus artificieux qu'ils ne l'eussent été par eux-mêmes, et par conséquent des membres moins utiles à la société. J'aurais pu exprimer cette conviction d'un ton plus bas, mais j'aurais craint qu'on eût traité mes plaintes de doléances affectées, au lieu d'y voir l'expression fidèle de mes sentiments et le résultat incontestable que l'expérience et la réflexion m'ont fait tirer. Quand j'en viendrai à cette division de mon sujet, j'aurai soin de remarquer les passages les plus blâmables de ces deux auteurs. En attendant, je dois faire observer que j'enveloppe dans la même condamnation tous ces livres si vantés qui ne tendent pourtant, à mon avis, qu'à dégrader une moitié de l'espèce humaine et à donner aux femmes des agréments qu'elles achètent trop cher puisque c'est aux dépens des vertus solides. Cependant, pour raisonner dans le sens de Rousseau, si l'homme a réellement atteint la perfection de l'âme quand son corps est arrivé à la maturité, il faudrait, pour ne faire qu'un de l'homme et de la femme, que cette dernière s'en reposât entièrement sur l'intelligence de l'autre. Alors le joli chèvrefeuille embrassant l'arbre vigoureux qui le supporterait formerait un tout également remarquable par l'élégance et la force. Mais, hélas, les maris aussi bien que leurs compagnes ne sont trop souvent que de vieux enfants. À peine même, grâce à leur débauche prématurée, les hommes conservent-ils cet extérieur mâle dont ils se prévalent. Et si un aveugle en conduit un autre, certes, il n'est pas besoin qu'un ange descende du ciel pour nous dire ce qu'il en arrivera. Les causes qui, dans la corruption actuelle de la société, contribuent à l'asservissement des femmes en enchaînant leur intelligence et en affaiblissant leur sens, sont en grand nombre. Peut-être une de celles qui fait le plus de mal que tous les autres, c'est leur inattention pour l'ordre. Faire chaque chose d'une manière bien ordonnée est un précepte très important dont les femmes, qui généralement parlant reçoivent une éducation fort peu réglée, n'atteignent jamais la pratique avec autant d'exactitude que les hommes, assujetties dès leur enfance à une marche régulière. Cette sorte d'étourderie, d'insouciance qui met les choses au hasard. Car quel autre nom donner aux mouvements brusques et heurtés d'une espèce de sens commun, à peine au-dessus de l'instinct, qu'on n'a jamais soin de soumettre à l'examen de la raison, empêche les femmes de généraliser les choses de fait. Ainsi, elles font aujourd'hui ce qu'elles ont fait hier, uniquement parce qu'elles l'ont fait hier. Ce mépris des conseils de la raison dans le printemps de la vie a pour sa suite des conséquences plus funestes qu'on ne le croit. Car les petites connaissances auxquelles arrivent les femmes à tête forte se trouvent, par différentes circonstances, beaucoup moins liées que celles des hommes. Elles les doivent plus aux observations faites à la volée qu'à la comparaison des remarques individuelles soutenues des résultats de l'expérience généralisés par la méditation. Plus à la société que les hommes, à cause de leur situation dépendante et de leurs occupations domestiques, si elles apprennent quelque chose, c'est à la dérober. Et comme l'instruction n'est en général chez elles qu'un point secondaire, elles n'en suivent aucune branche avec cette ardeur persévérante, indispensable pour donner de la force aux facultés de l'esprit et de la netteté au jugement. On exige, dans l'état actuel de la société, un peu d'instruction pour soutenir le caractère de ce qu'on appelle une naissance honnête. En conséquence, les jeunes gens sont obligés de se soumettre à quelques années d'études. Mais dans l'éducation des femmes, la culture de l'esprit est toujours subordonnée à l'acquisition de quelques avantages corporels. Et l'on manque même ce but, puisque le corps énervé par une éducation casanière, d'après de fausses notions de modestie, n'arrive jamais à cette grâce et cette beauté que des membres seulement à moitié formés et affaiblis d'ailleurs ne sauraient offrir. En outre, l'émulation, ce ressort si puissant, ne les engage point à développer leurs facultés dans la jeunesse, et n'ayant point d'objet sérieux d'étude, si les jeunes personnes ont reçu de la nature quelques pénétrations, elles l'apportent bientôt sur les petits détails de la vie et les manières du beau monde. En un mot, elles s'arrêtent sur les effets et les modifications, sans remonter jamais aux causes, et des règles compliquées de maintien remplacent sans doute bien imparfaitement des principes clairs et simples. Pour prouver que l'éducation donne aux femmes cette apparence de faiblesse, je me contenterai de citer l'exemple des militaires qu'on fait entrer, comme elles, dans le monde, avant que leur morale ait été enrichie de connaissances et fortifiée par les principes. Eh bien, les conséquences sont les mêmes. Les jeunes gens au service acquièrent une légère connaissance superficielle, glanée dans le champ de la conversation, et leur rapport fréquent avec les hommes dans la société leur vaut ce qu'on appelle le tact du monde. On a souvent confondu cette science des usages avec celle du cœur humain. Mais le fruit cru d'observations, faites au hasard et qu'on n'a jamais soumises à l'épreuve d'un jugement formé par des comparaisons soignées, et une expérience réfléchie, mérite-t-il vraiment le beau nom de science? Les militaires, ainsi que les femmes, pratiquent les vertus du dernier ordre avec une politesse scrupuleuse. Où donc est la différence sexuelle quand l'éducation a été la même? Pour moi, je n'en vois aucune, sinon plus de liberté pour les premiers, qui les met du moins à portée de voir et de connaître plus de détails de la vie. Peut-être regardera-t-on comme un écart une remarque politique que je vais me permettre et qu'il serait impardonnable de laisser échapper tant elle dérive naturellement de mon sujet. Des armées toujours sur pied ne seront jamais composées d'hommes robustes et déterminés, cela n'est pas possible. Elles peuvent être des machines bien disciplinées, mais elles compteront rarement des hommes à passion forte ou doués de facultés énergiques. Quant à la profondeur de tête, je ne crains point trop de m'aventurer en assurant qu'elle est aussi rare dans les armées que chez les femmes. La cause en est, à mon avis, la même. On peut encore observer que les officiers sont particulièrement attentifs à leur personne, fous de la danse, des assemblées nombreuses et brillantes, des aventures et de la plaisanterie. Leur grande affaire est la galanterie, comme celle du beau sexe. On leur a appris à plaire, et ils ne vivent que pour plaire. Cependant, ils ne perdent pas pour cela leur rang dans la distinction des sexes. On les regarde toujours comme supérieurs aux femmes, quoique toute leur supériorité, sauf ce que je viens d'en dire, soit difficile à découvrir. Le grand malheur est que les militaires et les femmes acquièrent des manières avant des mœurs, et une sorte de connaissance du train de la vie avant l'idée réfléchie ou le sentiment de sa grande et auguste destination. La conséquence est simple. Comptant des facultés ordinaires que donne la nature, si bornant, Ces êtres imparfaits deviennent la proie des préjugés et, prenant toutes leurs opinions sur parole, se soumettent aveuglément à l'usage. De sorte que s'il leur reste quelque sens, c'est uniquement une sorte de coup d'œil d'instinct qui saisit les proportions, les formes élégantes et décide sur les belles manières. Mais ne saurait creuser et arriver jusqu'au tuf ou se rendre compte du pourquoi d'une chose en la soumettant à l'analyse au moyen du raisonnement. Ne pourrait-on pas appliquer la même remarque aux femmes ? On pourrait même pousser plus loin cet argument et dire que les militaires et les femmes sont également tirés de la place avantageuse qu'ils rempliraient dans la société sans les distinctions contre nature établies par la civilisation. Les richesses et les honneurs héréditaires ont fait des femmes des zéros pour donner de la valeur aux autres chiffres. Et le désœuvrement n'a pas manqué d'amener dans la société un mélange de galanterie et de despotisme qui fait de ces mêmes hommes qu'on a vus ramper en esclaves aux pieds de leurs maîtres les tyrans de leurs sœurs, de leurs femmes et de leurs filles. Il est vrai qu'ils prétendent les tenir seulement dans l'ordre et à leur place. Mais fortifiez l'âme des femmes en l'agrandissant et vous verrez bientôt finir cette obéissance aveugle. Comme c'est ce qu'il faut au pouvoir arbitraire, les tyrans et les libertins n'ont pas tort de tâcher de retenir les femmes dans les ténèbres. Les premiers n'ont besoin que d'esclaves, et les autres que de joujoux. Dans le fait, les voluptueux ont été la plus dangereuse espèce de tyrans. Et les femmes se sont trouvées dupes de leurs amants, comme les princes de leurs ministres, en croyant régner sur eux. J'ai principalement en vue Rousseau traçant le caractère de Sophie, charmant à la vérité, mais bien peu naturel, suivant moi. Au reste, j'attaque moins les détails que la base de ce caractère, les principes de l'éducation de cette Sophie. Je dirai plus. Quelque portée que je sois à admirer le génie de ce grand écrivain, dont je me trouverai dans le cas de citer les opinions, j'avouerai que l'indignation prend toujours la place de l'admiration et que le froncement de sourcils de la vertu insultée efface le sourire de la satisfaction que causent ces phrases éloquentes, mais vides ou fausses, toutes les fois que je lis ces voluptueuses rêveries. Je me dis, est-ce là l'homme qui, dans son zèle pour la vertu, voudrait bannir tous les arts de la paix et presque nous ramener à la rudesse spartiate ? Est-ce là l'homme qui se complète à peindre les généreux et utiles combats contre la passion, les triomphes des sentiments honnêtes et les élans sublimes par lesquels une âme, attachée à la terre, se détache d'elle-même pour prendre son vol vers le ciel ? Combien il rabaisse ses grands sentiments quand il s'amuse à décrire les jolis pieds, les airs attrayants de sa petite favorite. Mais je me borne pour le présent à effleurer ce sujet, et au lieu de reprendre avec sévérité les effusions passagères d'une sensibilité victorieuse, je me contenterai d'observer que quiconque a jeté un œil bienveillant sur la société a dû souvent jouir du plaisir de voir un humble amour mutuel, quoiqu'il ne fût ni anobli par le sentiment ni fortifié par l'union de deux âmes, cherchant la vérité de concert. Il a pu voir les bagatelles domestiques fournir matière à une douce conversation et d'innocentes caresses délasser les travaux qui n'exigeaient ni un grand exercice de l'âme, ni un vol bien étendu de la pensée. Je le demande, cette vue d'une félicité modérée ne lui a-t-elle pas paru plus touchante que respectable ? N'a-t-elle pas excité en lui une émotion semblable à celle que nous éprouvons à la vue des jeux des enfants ou des petits animaux ? Tandis qu'un spectacle plus majestueux, la vue des combats généreux du mérite souffrant, a élevé notre âme jusqu'à l'admiration et porté nos pensées dans ce monde où les sensations feront place à la raison. De deux choses l'une, il faut donc regarder les femmes ou comme des êtres susceptibles de moralité ou comme des êtres si faibles qu'ils doivent se soumettre entièrement aux facultés supérieures des hommes. Examinons un peu cette question. Rousseau déclare qu'une femme ne doit jamais se sentir indépendante un seul moment, qu'il faut qu'elle soit constamment gouvernée par la crainte qui la détermine à exercer son adresse naturelle. En un mot, il en veut faire une esclave coquette pour en faire un objet plus attrayant de désir, une plus douce compagne pour l'homme toutes les fois qu'il voudra se délasser. Il pousse plus loin ses raisonnements qu'il prétend tirer des indications de la nature et insinue que le courage et la véracité, ces clés de la voûte de l'édifice de toutes les vertus humaines, ne doivent être cultivées chez elles qu'avec certaines restrictions, parce que l'obéissance est la grande leçon qu'il faut constamment inculquer aux femmes, le type sur lequel il faut former leur caractère sans jamais souffrir qu'elles s'en écartent. Quelle absurdité ! Quand s'élèvera-t-il donc un grand homme d'un caractère assez juste et d'un génie assez puissant pour dissiper les nuages que l'orgueil et le goût de la jouissance ont répandus sur ce sujet ? Quand même les femmes seraient naturellement inférieures aux hommes, leurs vertus devraient être toujours les mêmes en qualité, sinon en degré. Ou bien je m'y perds et la vertu n'est plus qu'une idée relative. En conséquence, leur conduite doit être fondée sur le même principe et tendre au même but. Liées avec l'autre sexe comme fille, épouse et mère, leur caractère moral doit s'apprécier d'après la manière dont elles remplissent ces devoirs simples. Mais le but, le grand but de leurs efforts, doit aussi être de déployer leurs facultés et d'acquérir la dignité d'une vertu qui s'en sont pris. Elles peuvent essayer de semer des fleurs sur la route de la vie, mais elles ne doivent jamais oublier, non plus que l'homme, que cette vie ne nous donne pas un bonheur capable de satisfaire une âme immortelle. Je ne prétends point du tout faire entendre qu'aucun des deux sexes doive se perdre dans des réflexions abstraites ou dans des vues éloignées, jusqu'à oublier les affections et les devoirs qui sont à notre portée et que je regarde, à vrai dire, comme les moyens destinés par la Providence à rendre la vie fructueuse et utile. Au contraire, personne ne recommande avec plus de chaleur que moi d'en jouir et de les pratiquer, même quand j'assure qu'ils procurent plus de satisfaction en les considérant sous ce point de vue subordonné. L'opinion établie que la femme fut créée pour l'homme a probablement pris naissance de l'histoire où Moïse s'est permis d'être poète. Cependant, comme je présume que ce n'est que le très petit nombre dans ceux qui se sont occupés de ce sujet, qui a jamais supposé qu'Ève ait été tirée, littéralement parlant, d'une des côtes d'Adam, il faut convenir que cette induction tombe d'elle-même, ou que tout ce qu'on peut en conclure, c'est qu'à partir de l'antiquité la plus reculée, l'homme a toujours pris plaisir à se servir de sa force pour subjuguer sa compagne et de son adresse pour lui faire ployer la tête sous le joug parce que son égoïsme voulait que la femme, ainsi que le reste de la création, fût entièrement consacrée à ses jouissances. Qu'on ne me prête donc point l'idée de vouloir intervertir l'ordre des choses. Je suis déjà convenu que, d'après leur constitution physique, les hommes semblent destinés par la Providence un plus grand degré de cette vertu qui suppose la force. Je prends ici tout ce sexe collectivement, mais je ne vois pas l'ombre de raison à conclure que leurs vertus doivent différer quant à leur nature. Et dans le fait, comment cela serait-il possible si la vertu n'a qu'une mesure commune et éternelle? Je suis donc obligé, pour raisonner conséquemment, de soutenir avec autant de force l'identité de but des deux sexes que l'existence même de Dieu. Il suit donc de tout ceci qu'on ne saurait opposer la ruse à la sagesse, les petits soins aux grandes actions, ni une douceur insipide, vernie du nom d'amabilité, à ce courage que les grandes vues peuvent seules inspirer. On m'objectera que les femmes perdront alors beaucoup de grâces qui leur sont propres, et pour réfuter une assertion qu'on prétendra mal fondée, on me citera deux vers d'un poète bien connu, car Pope a dit au nom de tout son sexe: cependant, elle n'était jamais si sûre de créer en nous de l'amour que quand elle tâchait de se rendre haïssable. Je laisserai au lecteur judicieux à déterminer dans quel jour cette saillie place les hommes et les femmes. En attendant, je me contenterai d'observer qu'il m'est impossible de découvrir pourquoi ces dernières, à moins que l'immortalité ne soit pas leur partage, devraient être toujours dégradées en ne servant qu'à l'amour ou à quelque chose de moins honnête encore. Parler avec peu de respect de l'amour est, je le sais, un crime de haute trahison contre le sentiment et la belle sensibilité à la mode. Mais il est plus question ici de tenir le simple langage de la vérité et de s'adresser à la tête qu'au cœur. Essayer par des raisonnements de bannir l'amour de ce monde, ce serait vouloir bannir Don Quichotte du roman de Cervantes et pécher contre le sens commun autant que le chevalier de la triste figure. Mais essayer de réprimer cette passion tumultueuse et prouver qu'il ne faut pas lui laisser détrôner les qualités supérieures ou usurper dans notre âme le sceptre que l'intelligence doit toujours y tenir, d'une manière tranquille et impartiale, paraîtra sans doute moins choquant. La jeunesse est la saison de l'amour dans les deux sexes, mais dans ces jours où l'on a le tort de jouir sans prévoyance, il serait pourtant assez sage de faire quelques provisions pour les années plus importantes de la vie où la réflexion vient remplacer l'essence refroidie. Cependant, Rousseau, trop suivi en cela par les autres écrivains qui l'ont imité, n'a cessé de répéter avec beaucoup de chaleur que toute l'éducation des femmes devait tendre à un seul point, de les rendre agréables. Raisonnons un peu avec les personnes de cet avis qui se piquent d'avoir quelques connaissances du cœur humain. Croient-elles que le mariage puisse déraciner les habitudes ? La femme instruite uniquement à plaire trouvera bientôt que ses charmes ne sont plus que les tièdes rayons d'un soleil d'hiver et qui ne peuvent avoir beaucoup d'effet sur le cœur d'un époux qui les voit tous les jours quand l'été a fait place à une saison plus froide. Aura-t-elle alors assez d'énergie naturelle pour chercher des ressources et des consolations en elle-même et tirer parti de ses facultés qu'elle a laissées dormir ? N'est-il pas plus vraisemblable qu'elle essaiera de plaire à d'autres hommes et d'étouffer dans le doux espoir de nouvelles conquêtes les mortifications que son orgueil et son amour-propre auront reçues ? Quand un mari cesse d'être un amant, et par malheur cela ne peut pas manquer d'arriver, le désir qu'elle avait de plaire languit ou se tourne en humeur. L'amour, de toutes les passions peut-être la plus évaporable, devient alors jalousie ou vanité. Parlerons-nous des femmes auxquelles leurs principes ou leurs préjugés peuvent servir de frein ? Eh bien, celles-là, quoique reculant avec horreur à la seule idée d'intrigue, n'en seront pas moins charmées d'être convaincues par l'hommage de la galanterie que leurs maris sont trop cruels de les négliger. Ou bien, honnêtes mais sensibles, elles passeront des jours, des années à rêver au bonheur qu'éprouvent deux âmes bien unies. Cette désespérante méditation minera leur santé jusqu'à ce qu'enfin, consumées par le chagrin, elles viennent à s'éteindre. Je voudrais bien voir à présent à quoi leur aura servi ce grand art de plaire sur lequel on ne cesse d'insister. Que mes adversaires en conviennent, cette recette ne peut être qu'à l'usage d'une maîtresse. L'épouse chaste et la mère sérieusement occupée ne regarderont la faculté de plaire que comme le poli de leur vertu et l'affection d'un époux comme une de ces consolations qui rendent la tâche moins difficile et la vie plus heureuse. Mais aimée ou négligée, leur premier soin sera de se rendre respectable et de ne pas confier tout leur bonheur à un être sujet aux mêmes faiblesses qu'elle. L'aimable docteur Grégory est tombé dans la même erreur. Je respecte son cœur, mais je désapprouve entièrement son célèbre ouvrage intitulé « Legs d'un père à ses filles ». Il leur conseille de cultiver le goût pour la parure, parce que, dit-il, le goût pour la parure est naturel aux femmes. Je n'entends pas trop ce que Rousseau et lui veulent dire par ce mot, qu'ils emploient si souvent sans l'avoir défini. Veulent-ils nous révéler que dans un état préexistant, l'âme était folle de parure, et qu'en entrant dans un nouveau corps, elle n'a pas manqué d'y apporter ce goût? Moi, je ne manquerai pas de sourire, comme je le fais, toutes les fois que j'entends parler d'élégance innée. Se bornent-ils à prétendre que l'exercice de nos facultés produira ce goût? Je le nie. Il n'est point naturel, mais il vient, comme la fausse ambition des hommes, de l'amour du pouvoir. Grégory va beaucoup plus loin. Il recommande précisément la dissimulation, et avertit une jeune fille innocente et naïve de mentir à ses sentiments et de ne point danser avec vivacité, quand même la gaieté qui l'animerait donnerait à ses pieds de l'expression sans rendre son port immodeste. Je le demande, au nom du sens commun et de la vérité, pourquoi serait-il défendu à une femme de reconnaître qu'elle peut prendre plus d'exercice qu'une autre ou, en changeant les mots, qu'elle est d'un bon tempérament? Et pourquoi, pour éteindre son innocente vivacité, lui insinuer obscurément que les hommes en tireront des conséquences auxquelles elles ne songeaient guère? Qu'un libertin pense ce qu'il voudra, mais j'espère qu'aucune mère sensible ne restreindra la franchise naturelle de la jeunesse par ses indécentes précautions. La bouche parle de l'abondance du cœur, et un sage, plus sage que Salomon, a dit qu'il fallait avoir le cœur pur sans s'inquiéter de l'observation de cérémonies minutieuses, qu'il est d'ailleurs fort aisé de remplir scrupuleusement, quoique le vice règne dans le cœur. Sans doute les femmes doivent s'efforcer de purifier leur cœur, mais peuvent-elles le faire quand leur intelligence sans culture les laisse absolument dans la dépendance de leur sens, soit pour s'occuper, soit pour s'amuser, quand aucune recherche plus noble ne les met au-dessus des petites vanités du jour, ou en état de calmer les mouvements qui agitent un faible roseau, livré à la merci des plus légers zéphyrs. L'affectation est-elle donc nécessaire pour gagner le cœur d'un honnête homme? La nature a donné à la femme un corps moins robuste qu'à l'homme, mais faudra-t-il, pour s'assurer l'affection de son mari, qu'une femme qui, par l'exercice de ses facultés morales et physiques, a su conserver à son tempérament sa force naturelle et à ses nerfs leur vigueur, tandis qu'elle remplissait les devoirs d'épouse, de fille et de mère, s'abaisse jusqu'à l'artifice et feigne une délicatesse maladive dans l'intention de conserver le cœur d'un homme qui devrait être charmé de la voir en bonne santé pour peu qu'il fût raisonnable. La faiblesse peut exciter l'intérêt et flatter l'arrogant orgueil de l'homme. Mais les caresses d'un maître, d'un protecteur, ne satisferont pas une âme généreuse qui veut et mérite du respect. Cette sorte de tendresse est un chétif remplacement de l'amitié. Je reconnais la nécessité de tous ces artifices dans un sérail, à la bonne heure. L'épicurien qui le possède a besoin d'avoir son palais réveillé sous peine de dégoût. Mais quelle femme se contenterait de cette existence, sinon celle qui n'en mériterait pas une meilleure? Peut-on faire de la vie un songe et la passer lâchement dans le sein du plaisir ou la langueur de l'indolence plutôt que d'assurer son droit à des jouissances raisonnables et de s'illustrer par la pratique des vertus qui honorent l'espèce humaine? Certes, elle n'a pas une âme immortelle, celle-là, qui peut dissiper, de gaieté de cœur, sa vie purement consacrée à la parure pour amuser les heures languissantes et charmer les ennuis d'une créature son égale qui veut être réveillée par ses sourires et ses agaceries. Au contraire, la femme qui exerce son corps et fortifie son intelligence, en soignant sa famille et pratiquant différentes vertus, devient l'amie et non l'humble esclave de son époux, et si elle mérite son estime par ses qualités solides, elle ne sera pas réduite à cacher son amour, ni à prétendre à une froideur de tempérament contre nature pour exciter les passions de son mari. En effet, parcourons l'histoire, nous y verrons que les femmes qui se sont distinguées n'ont été ni les moins belles, ni les moins aimables de leur sexe. La nature, ou pour parler plus exactement, Dieu a bien fait tout ce qu'il a fait. Mais l'homme a gâté son ouvrage en se tourmentant à chercher des moyens de le perfectionner. On voit assez que j'ai actuellement en vue cette partie du traité de Grégory où il conseille à une femme de ne jamais laisser connaître à son mari l'étendue de sa sensibilité et de son amour. Précaution voluptueuse et aussi peu efficace qu'absurde. L'amour, par sa nature même, ne peut être que passager. Chercher un secret pour le fixer serait aussi déraisonnable que chercher la pierre philosophale ou la panacée universelle. Et cette découverte servirait aussi peu, ou pour mieux dire, nuirait autant au genre humain. Le lien le plus sacré de la société est l'amitié, vérité reconnue par le satirique, qui a raison de dire « Quelque rare que soit le véritable amour, l'amitié véritable est encore plus rare. » C'est une vérité toute simple, et la cause n'en étant pas très cachée, ne peut échapper au plus léger coup d'œil de l'observateur. L'amour, cette passion ordinaire, où le hasard et la sensation remplacent le choix et la raison, est ressenti jusqu'à un certain point par la masse du genre humain. Car il est inutile, quant à présent, de parler des mouvements qui s'élèvent ou descendent au-dessus ou au-dessous de l'amour. Cette passion, naturellement augmentée par l'incertitude et les obstacles, tire l'âme de son assiette ordinaire et exalte ses affections. Mais la sûreté de la possession de l'objet qu'on recherchait, amenée par le mariage, laissant tomber la fièvre de l'amour, cette température que comporte la santé paraît insipide. J'avoue que ceux qui la jugent ainsi sont seulement les êtres qui n'ont pas assez de bon sens pour substituer la tendresse calme de l'amitié, la confiance de l'estime, à l'admiration aveugle et aux émotions sensuelles de l'amour. Tel est le cours infaillible des choses. L'indifférence ou l'amitié succèdent nécessairement à l'amour. et cette disposition semble être parfaitement en harmonie avec le système de gouvernement établi dans le monde moral. Les passions sont des ressorts qui poussent à agir et ouvrent l'âme, mais elles se rabaissent à la qualité de purs appétits et deviennent une satisfaction personnelle et momentanée quand elles ont atteint leur but et que l'âme satisfaite s'arrête à la jouissance. L'homme qui a déployé quelques vertus, tandis qu'il combattait pour une couronne, n'est souvent devenu qu'un tyran voluptueux après avoir réussi à la mettre sur sa tête. De même, quand l'amant n'est point identifié avec l'époux, l'insensé en proie à des caprices enfantins et à de ridicules jalousies néglige les devoirs sérieux de la vie pour prodiguer à un vieil enfant, sa femme, les caresses par lesquelles il aurait dû exciter la confiance dans l'âme de sa jeune famille. Pour remplir les devoirs de la vie et être en état de suivre avec vigueur les différentes fonctions qui forment le caractère moral, un maître et une maîtresse de maison ne doivent pas continuer à s'aimer avec passion. Je veux dire qu'ils ne doivent pas se livrer à ces émotions qui troublent l'ordre de la société et absorbent des facultés qu'on aurait dû employer autrement. L'âme qui n'a jamais été remplie par un objet manque de vigueur. Elle est faible si elle peut rester longtemps dans cet état d'apathie. Une éducation prise à contresens, une âme étroite et sans culture, et beaucoup de préjugés sexuels tendent à rendre les femmes plus constantes que les hommes. Mais je ne veux pas, pour le présent, m'occuper davantage de cette branche de mon sujet. J'irai plus loin, et j'avancerai sans croire proposer un paradoxe, qu'un mariage malheureux tourne souvent à l'avantage d'une famille, et que la femme négligée est, en général, la meilleure mère. C'est ce qui arriverait même, presque toujours, si l'âme des femmes était plus grande. Car il semble que ce soit une dispensation ordinaire de la Providence qu'il faille déduire de l'expérience, ce trésor de la vie, ce que nous gagnons dans les jouissances actuelles. Et que tandis que nous cueillons les fleurs du jour et goûtons le plaisir, nous ne puissions pas cueillir en même temps le fruit solide du travail et de la sagesse. Le chemin est devant nos yeux, nous pouvons prendre à gauche ou à droite. Celui qui veut passer sa vie à voltiger d'un plaisir à un autre ne doit pas se plaindre s'il n'acquiert ni la sagesse ni l'estime qu'on lui accorde. Supposons pour un moment que l'âme n'est pas immortelle et que l'homme n'a été créé que pour la scène étroite du monde. Je crois qu'alors nous aurions raison de nous plaindre de ce que l'amour et la tendresse puérile deviennent toujours insipides et cessent de piquer nos sens. Mangeons, buvons et faisons l'amour, car nous mourrons demain, serait dans le fait le langage de la raison, la moralité de la vie. Et il n'y aurait qu'un fou qui pût abandonner la réalité pour courir après une ombre fugitive. Mais si, animé d'un plus noble espoir, à la vue des facultés perfectibles de notre âme, nous dédaignons de borner nos vœux et nos pensées à ce point terrestre, qui ne paraît grand et important qu'autant qu'il est lié avec une perspective sans bornes et de sublimes espérances, quelle nécessité d'avoir une conduite fausse et pourquoi voiler la majestueuse et sainte vérité pour nous attacher à conserver des biens trompeurs qui sapent les bases de la vertu? Pourquoi l'âme des femmes se souillerait-elle de la coquetterie dans la vue de plaire à des hommes sensuels et d'empêcher l'amour de devenir amitié ou tendresse affectueuse en ne lui fournissant aucun des motifs qui peuvent le rendre tel? Qu'un cœur honnête se montre à découvert et que la raison apprenne aux passions à se soumettre à la nécessité, ou plutôt que le grand but de la vertu et des connaissances élève l'âme au-dessus de ses sentiments qui rendent amère la coupe de la vie plutôt qu'ils ne l'adoucissent, surtout quand on n'a pas besoin de les restreindre dans leur juste borne. Il n'est pas question ici de cette passion de roman qui accompagne le génie. Rien ne peut affaiblir le ressort de ces êtres. Il n'y a que cette grande passion, bien au-dessus des petites jouissances de la vie, qui soit fidèle au sentiment et vive d'elle-même. Au reste, toutes celles que leur durée a rendues célèbres ont été malheureuses. L'absence, un tempérament mélancolique, leur ont donné de la force. L'imagination a plané au-dessus d'une beauté vue au travers d'un nuage. Mais la familiarité aurait peut-être changé l'admiration en dégoût, ou du moins en indifférence, et permis à l'imagination de chercher un nouvel objet. C'est ainsi que Rousseau, fidèle aux convenances dans cet ordre de choses, peint Héloïse la maîtresse de son âme, aimant saint Preux, même au moment où elle voyait éteindre sa vie. Mais ce n'est pas là une preuve de l'immortalité de cette passion. Je trouve ce même caractère à l'avis du docteur Grégory sur la délicatesse de sentiment qu'il conseille à une femme de ne pas se donner la peine d'acquérir, à moins qu'elle ne soit déterminée à se marier. Conséquent néanmoins à son premier avis, il regarde cette détermination comme indélicate et recommande soigneusement à ses filles de la cacher, quoiqu'elles doivent régler leur conduite. Comme s'il était peu délicat d'avoir les appétits ordinaires de la nature humaine. Belle morale, et d'accord avec la timide prudence d'une âme étroite qui ne saurait étendre ses vues au-delà de la minute actuelle de son existence. Si toutes les facultés de l'âme d'une femme ne doivent être cultivées que dans le rapport de dépendance où l'on suppose qu'il faut qu'elle se trouve toujours vis-à-vis de l'homme, si, quand elle a obtenu un époux, elle est arrivée au terme de sa carrière et que sa basse vanité se contente de ce chétif honneur, laissons-la ramper à son gré dans cette situation qui lui suffit, quoique le rôle qu'elle y joue ne l'élève guère au-dessus du règne animal. Mais si elle s'efforce d'obtenir le prix et l'estime dû à un être raisonnable et immortel, qu'elle cultive son intelligence sans s'arrêter au caractère de l'homme auquel elle peut être destinée pour épouse. Qu'elle se décide seulement, sans trop s'inquiéter du bonheur actuel, à se donner les qualités qui ennoblissent un être raisonnable. Alors un mari grossier ou peu aimable pourra choquer son goût, mais n'altérera jamais la paix de son âme. Préparée aux événements, au lieu de la plier à imiter les faiblesses de son associé, elle en saura souffrir les fâcheux effets, et ce caractère dur présentera une épreuve plutôt qu'un obstacle à sa vertu. Si notre auteur eut borné ses remarques à l'espoir romanesque d'un amour constant et d'affection partagée, il aurait dû rappeler cette grande vérité, que l'expérience dissipera toujours ce bonheur, après lequel ses avis ne nous empêcheront jamais de soupirer, et qui disparaît toutes les fois qu'en éveille l'imagination aux dépens de la raison. J'avoue qu'il arrive souvent que les femmes, qui se sont fait une délicatesse de sentiment vraiment romanesque et contraire à la nature, passent leur vie à imaginer combien elles auraient été heureuses avec un mari capable de les aimer de l'amour le plus tendre et croissant tous les jours. Mais elles gémissent aussi bien mariées que seules, et elles ne seraient pas moins malheureuses avec un mauvais mari qu'en séchant du désir d'en obtenir un bon. J'accorde qu'une éducation convenable, un cœur rempli de bons principes, mettrait une femme en état de supporter avec dignité la vie solitaire. Mais je soutiens que négliger de cultiver son goût, de peur d'éprouver des désagréments de la part d'un mari qui pourra peut-être le choquer de temps à autre, c'est abandonner l'essentiel pour l'accessoire. À vrai dire, je ne sais trop de quel usage serait un goût perfectionné s'il ne servait à rendre l'individu qui le possède plus indépendant des hasards de la vie. S'il n'ouvrait de nouvelles sources de jouissance uniquement du ressort des facultés de l'âme, et qui, par là même, n'ont besoin du concours de personne. Les gens de goût, mariés ou célibataires, seront toujours choqués de différentes choses qui n'affectent nullement des âmes moins sensibles. Ce n'est pas sur cette conclusion qu'il faut juger ce raisonnement. Il suffit d'examiner si, dans toute la somme des jouissances, on peut regarder le goût comme un avantage. Procure-t-il plus ou moins de peine ou de plaisir? Voilà la question. La réponse décidera de la justesse de l'avis du docteur Grégory et montrera combien il est absurde et tyrannique de tracer un plan d'esclavage ou d'essayer d'élever des êtres moraux d'après d'autres règles que celles qui nous sont fournies par la pure raison et qui s'appliquent également à toute l'espèce humaine. Des mœurs douces, la patience et la mansuétude sont des qualités si précieuses que les poètes, dans leurs élans sublimes, ont cru devoir en revêtir la divinité. Et peut-être aucune image de sa bonté ne se graverait-elle aussi profondément dans le cœur humain que celle qui le représente abondante en miséricorde et disposée à pardonner. La douceur aimable, considérée sous ce point de vue, porte tous les caractères de la grandeur combinés avec les charmes irrésistibles de la condescendance. Mais quel aspect différent ne prend-elle pas lorsqu'elle n'est que l'abaissement soumis de la dépendance, l'appui de la faiblesse, qui aime parce qu'elle a besoin de protection et qui pardonne parce qu'elle est réduite à endurer patiemment les injustices qu'elle n'ose repousser et sous l'oppression desquelles elle sourit encore pour adoucir son tyran. De quelque abjection que ce tableau présente l'idée, c'est pourtant celui d'une femme accomplie, du moins à s'en rapporter à l'opinion de ces sophistes à deux balances, aux yeux de qui le mérite de la femme doit être autre que celui de l'homme. Quelquefois, cependant, ils replacent charitablement la côte enlevée et font de l'homme et de la femme un seul être moral, sans oublier de donner à celle-ci tous les charmes de la soumission. On ne nous parle point du choix d'un état pour les femmes, abstraction faite du mariage. Quoique tous les moralistes aient reconnu que le système de la vie semble démontrer que l'homme est préparé par diverses circonstances à prendre un état, ils veulent que la femme ne s'occupe que du présent. D'après ce principe, ils lui recommandent de la docilité, la gentillesse et je ne sais quelle affection caressante. Ils font de ces qualités les vertus cardinales du sexe et, sans égard pour la variété que la nature met dans les caractères, un écrivain a déclaré que le sérieux était une qualité masculine dans une femme. Elle a été formée pour être le joujou de l'homme, et il faut qu'elle remplisse cette destination. Il est philosophiquement vrai que la gentillesse est le partage d'un être faible et délicat. La grâce en lui doit suppléer à la force, mais quand la docilité n'est point raisonnée, quand elle se prête à tout, elle cesse d'être une vertu, et cependant il faut qu'elle ait ce caractère dans une association où l'un des conjoints est toujours inférieur à l'autre et lui inspire seulement une tendresse fade qui dégénère facilement en mépris. Encore si les monitions pouvaient rendre aimable et complaisante une femme qui ne l'est point naturellement, il pourrait en résulter quelques avantages. Mais si, comme on peut le démontrer, ce conseil donné au sexe en général ne produit que l'affectation, s'il s'oppose au perfectionnement, à l'amélioration du caractère, je ne vois pas ce que gagne le sexe à sacrifier de solides vertus pour des grâces superficielles, quoiqu'elles puissent lui procurer quelques années d'un empire absolu. Comme philosophe, je lis avec indignation les épithètes que les hommes emploient pour adoucir leurs insultes. Comme moraliste, je demande ce que signifie l'assemblage incohérent de jolis défauts, aimables faiblesses, etc. S'il n'existe de critérium de type moral, que pour les hommes, la femme n'est qu'un être équivoque. Elle n'a ni l'instinct toujours sûr des brutes, ni les directions de la raison. Faite pour être aimée, elle ne peut prétendre au respect sans se dénaturer et sans être rejetée de la société comme empiétant sur les droits de l'autre sexe. Mais pour considérer le sujet que nous traitons sous un autre point de vue, est-il vrai que ces femmes, d'une indolence passive, soient les meilleures épouses ? Pour ne pas nous écarter du temps présent, montrez-nous comment ces faibles créatures remplissent leur rôle. Faites-nous voir que les femmes qui, par l'acquisition de quelques dons superficiels, ont donné de la consistance aux préjugés dominants, faites-nous voir, dis-je, qu'elles contribuent au bonheur de leurs époux. Ne déploient-elles leur charme que pour les amuser? Ces femmes élevées de bonheur dans l'obéissance passive sont-elles bien propres aux soins d'une famille, à l'éducation des enfants? Ont-elles assez de caractère pour remplir ces devoirs? Je ne le crois pas. Et après avoir parcouru les annales de mon sexe, je conviens avec ceux qui en ont fait la satire que cette moitié du genre humain est la plus faible et la plus opprimée. L'histoire ne nous offre que les témoignages de son infériorité. Toutes ont porté le joug oppresseur des hommes. Il en est si peu qu'ils s'en soient affranchis qu'elle me rappelle la conjecture ingénieuse à laquelle Newton a donné lieu. On a dit, en parlant de ce grand philosophe, qu'un être d'un ordre supérieur s'était probablement venu loger dans un corps humain. Je croirais de même que le peu de femmes extraordinaires qui, par un effort excentrique, se sont élevées au-dessus de leur sexe, étaient des esprits mâles qui, par quelque méprise, se sont trouvés renfermés dans un corps féminin. Mais si cette conjecture n'est pas philosophiquement admissible, il faut que l'infériorité du sexe tienne à ses organes ou au partage inégal de ce feu céleste qui anime notre argile. Toutefois, en évitant toute comparaison directe entre les deux sexes, comme je l'ai fait jusqu'à présent, ou en reconnaissant de bonne foi l'infériorité des femmes selon la manière actuelle de voir les choses, j'insiste sur ce que les hommes ont accru cette infériorité au point de placer les femmes presque hors de la ligne des créatures raisonnables. Laissez-leur assez de marge pour développer leurs facultés, pour renforcer leurs vertus, alors vous déterminerez la place qu'elles doivent occuper dans l'échelle des êtres. Je parle du sexe en général. N'oublions pas qu'il est un petit nombre de femmes distinguées qui n'ont pas besoin qu'on leur assigne une place. Elles sauront bien se la donner. Enveloppées de ténèbres épaisses du despotisme qui nous font trébucher à chaque pas, il nous est sans doute assez difficile de prévoir le degré de perfection dont nous sommes susceptibles. Mais quand la morale sera fondée sur des bases plus solides, j'ose avancer, sans être prophète, que la femme sera l'esclave ou l'amie de l'homme. Nous ne serons plus réduites à douter, comme à présent, si c'est un agent moral ou un chaînon qui, dans la série des genres et des espèces, unit l'homme à la brute. Mais quand il sera reconnu que, comme les animaux, les femmes sont créées pour l'usage de l'homme, ils les laisseront patiemment mordre leurs freins sans les accabler d'un sot orgueil. Si, au contraire, on prouve leur rationalité, les hommes sans doute ne s'opposeront point à leur perfectionnement pour satisfaire les caprices et les fantaisies. Ils n'emploieront point toutes les grâces de leur rhétorique à leur apprendre l'obéissance implicite à leurs commandements. Quand ils traiteront de l'éducation des femmes, ils ne diront pas qu'elles ne doivent jamais user librement de leur raison. Ils ne recommanderont point le manège, la ruse, la dissimulation à des êtres susceptibles d'acquérir comme eux toutes les vertus de l'humanité. Si la moralité a une base éternelle, elle doit être la même dans tous les temps. Or, tout être à qui l'on fait un devoir de se sacrifier journellement aux convenances ne vit en effet que pour le moment présent et ne peut être soumis à la responsabilité. Il aurait donc pu parler sérieusement, le poète, qui a dit pour persifler les femmes que si elles s'égarent, il faut s'en prendre à leur étoile. Car elles seraient en effet livrées à la fatalité s'il était démontré que leur propre raison ne doit jamais les guider. Qu'elles n'ont aucun droit à l'indépendance, qu'il leur est interdit de s'élever au-dessus de l'opinion ou de sentir la dignité de l'être raisonnable qui ne relève que de Dieu et qui souvent oublie l'existence des autres êtres pour ne s'occuper que de lui-même et du modèle de perfection dont les attributs peuvent être l'objet de son imitation, quoique l'esprit se perde dans leur contemplation idéale. Mais rejetons les déclamations quand la raison nous offre sa lumière. Si les femmes sont des créatures raisonnables, ne les traitez point en esclaves. En les associant à l'homme, ne les traitez point comme les bêtes qui sont dans sa dépendance. Cultivez leur entendement, donnez-leur des principes, qu'elles acquièrent la conscience de leur dignité en éprouvant qu'elles ne dépendent que de l'être suprême. Au lieu de leur faire une morale particulière pour les rendre plus agréables, enseignez-leur, comme aux hommes, à se soumettre à la nécessité. Peut-être l'expérience prouvera-t-elle qu'elles ne peuvent atteindre au même degré de force d'esprit, de persévérance, de courage. Mais que leurs vertus soient spécifiquement les mêmes que celles des hommes, dussent-elles les avoir à un degré inférieur. La supériorité de l'homme sera tout aussi évidente si elle ne l'est davantage, et la vérité qui est une et qui n'est susceptible d'aucune modification sera commune à tous. L'ordre actuel des choses ne sera pas même dérangé. Les femmes auront seulement le rang que la raison leur assigne, sans chercher les moyens de tenir la balance égale, encore moins de la faire pencher. On peut regarder ces propositions comme des rêves de l'utopie, je n'en rends pas moins des actions de grâce à l'être qui me les a inspirées et qui m'a donné le courage d'oser faire usage de ma propre raison jusqu'à ce que, ayant secoué mes entraves, je me suis indigné à l'aspect des fausses notions qui asservissent mon sexe. J'aime l'homme comme mon compagnon, mais son sceptre légitime ou usurpé ne s'étend pas sur moi, à moins que le mérite individuel ne force mon hommage, et dans ce cas-là même, je me rends à la raison et non à l'individu. Dans le fait, l'être qui me répond de sa conduite doit la diriger sur sa propre raison. S'il en est autrement, qu'on me dise sur quoi repose le tribunal du juge souverain. Il me semble nécessaire d'insister sur ces vérités triviales, car on en a, pour ainsi dire, isolé les femmes, et en les dépouillant des vertus qui parent l'humanité, on les a décorées de quelques grâces artificielles qui les rendent propres à exercer, pour quelques instants, une sorte de tyrannie. L'amour, dans leur sein, remplace les passions nobles et généreuses. Leur seule ambition est d'être jolie, de produire l'émotion au lieu d'inspirer le respect. Et telle que la servilité dans les monarchies absolues, la bassesse de ce désir détruit toute la force du caractère. La liberté est la mère de la vertu. Si les femmes étaient esclaves par leur nature, s'il ne leur était pas donné de respirer l'air vivifiant de la liberté, elles languiraient comme des plantes étrangères et seraient regardées comme un beau défaut dans la nature. N'oublions point qu'elles ne sont pas autre chose aujourd'hui. Mais on peut rétorquer sur l'homme l'argument relatif à la servitude dans laquelle le sexe a toujours été retenu. Le petit nombre a toujours asservi le plus grand, et des monstres qui méritaient à peine le nom d'hommes ont tyrannisé des milliers de leurs semblables. Pourquoi des hommes supérieurs se sont-ils soumis à cette dégradation? Il n'est pas universellement reconnu que les rois, envisagés collectivement, l'aient toujours emporté en talent et en vertu sur un nombre égal d'individus tirés de la masse commune du genre humain. N'ont-ils pas cependant été toujours traités, et ne le sont-ils pas encore, avec une vénération qui outrage la raison? La Chine n'est pas le seul pays où l'on ait fait un dieu d'un homme. Pour avoir quelque repos, les hommes se sont soumis à un maître. Il en a été de même des femmes, et jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'un courtisan qui fait abnégation de ses droits naturels n'est pas un être moral, on ne peut pas démontrer que la femme est inférieure à l'homme, car elle a toujours été subjuguée. Une force brutale a jusqu'ici gouverné le monde. La science la plus utile aux hommes, la politique, est encore dans l'enfance, et ce qui le prouve, bien évidemment, c'est que les philosophes n'osent la regarder comme une véritable science. Je ne poursuivrai ce raisonnement que pour en tirer la conclusion naturelle que, puisqu'il est de la saine politique d'étendre la liberté, le genre humain, en y comprenant les femmes, en deviendra plus vertueux et plus sage.